Jeannette Hertel.
Bonjour.
Le très peu de choses que je sais du yiddish et de la littérature yiddish, je vous le dois. Et ce que vous m'avez fait découvrir, notamment, c'est le livre de Levick, ce magnifique livre, dans les bagnes du tsar, que vous avez traduit en 2019. Et en lisant ce livre, certaines questions sont venues à l'esprit, surtout sur l'intérêt que vous aviez eu pour cet auteur, et en particulier pour cette œuvre, qui est assez originale finalement chez Levick, puisque Levick souligne d'ailleurs lui-même au début que jusque-là, il a toujours pensé qu'un poème était finalement plus dense, plus efficace pour traduire certaines choses de la vie, et qu'il avait toujours refusé l'autobiographie et le récit réaliste. Pourquoi donc en est-il arrivé là, 50 ans après les événements, après avoir derrière lui une œuvre poétique immense? Et pourquoi vous, finalement, avez-vous décidé de traduire ce livre-là en particulier plutôt que son œuvre poétique?
D'abord, j'ai traduit aussi des poèmes de Levick. Oui. D'ailleurs, il y en a deux que je vais lire.
D'accord.
Je vais vous lire. Je choisis ça parce que, d'abord, Levick était déjà très âgé et je voulais qu'il puisse lire quelque chose qui soit traduit en français, parce que le yiddish est une langue de petite diffusion. Donc tous les auteurs de langues de petite diffusion sont toujours frustrés parce qu'ils ont un lectorat très, très réduit. Et donc pour Levick, que j'ai connu grâce à ce phalanstère yiddish, j'ai voulu qu'il puisse lire ce livre de son vivant. Et donc, je me suis lancée dans la traduction de ce livre, plutôt que des poèmes qui m'auraient pris beaucoup plus de temps, et je ne savais pas de combien de temps je disposais. Et ça, c'est une des raisons. L'autre raison qui m'a émue, ça a été son introduction à lui, où il explique que il sait très bien que des choses plus importantes sont arrivées dans le monde que ce qui lui est arrivé à lui, c'est-à-dire d'être arrêté et emprisonné alors qu'il était militant bouddhiste sous le tsar et qu'il n'avait que 16 ans. Néanmoins, il a été arrêté et a été condamné à 6 ans de prison et à une condamnation en déportation à vie. Donc, j'ai voulu retrouver ce moment de Levick, 16 ans, militant bouddhiste, issu d'une famille pratiquante, juive, s'engageant dans un militantisme qui était totalement étranger à son milieu. Et j'ai trouvé ça très émouvant de voir que à la fin de sa vie, ce qui lui revient néanmoins, c'est ce moment-là.
Oui, il y a quand même beaucoup de choses qui se font écho entre Levick et vous, puisque il y a eu cette expérience de la Sibérie, de la déportation, de la dispersion de la famille, de la disparition du père. Avec en plus de cela des échos qui sont à la fois dissonants et en même temps assez harmoniques, à savoir le père de Levick a brûlé ses premiers poèmes, mais ce sont les poèmes en hébreu. Les poèmes en yiddish, il va les garder. Ensuite, la mère va expliquer qu'il les conserve précieusement. Et finalement, vous, votre père était poète yiddish, mm-hmm. et finalement, vous l'avez très peu connu, vous n'avez pas pu justement recevoir cet héritage, vous l'êtes approprié en quelque sorte, et même vous êtes allé plus loin, puisque vous l'avez associé, vous avez intégré tout cela à la culture yiddish dont vous vous êtes fait une protectrice essentielle. Est-ce que finalement ces échos qui existent entre la vie de Lévique et la vôtre n'ont pas joué aussi pour vous intéresser à cet auteur, ou n'ont pas influencé votre travail?
Alors, le choix de mon travail, très probablement, hein, même si je n'en étais pas consciente, il est probable que ça ait été le cas. En revanche, quand j'ai traduit Soutskever, j'ai commencé par Sibérie, alors que je n'avais aucun souvenir de ma période sibérienne. Et le premier recueil que Soutskever a écrit, ça a été Sibérie, et c'est le premier cycle de poèmes que j'ai commencé à traduire, j'avais 18 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Donc il y a certainement quelque chose de ce genre. Mais ma vie est un peu compliquée. Mon père, qui a été déporté et qui est mort au goulag, je ne l'ai pas connu du tout. Celui que je nomme mon père, c'est celui qui m'a élevé, que ma mère a épousé après la guerre, et donc c'est lui qui était poète. Mon père biologique était un membre du Bund aussi, il était même à la tête du Bund à Slonim, dans la ville dans laquelle je suis née, et il a été arrêté par les soviétiques en tant qu'ennemi du peuple, puisque vous savez que quand l'Allemagne a envahi la Lituanie, les Russes ont envahi l'autre partie de la Lituanie. Et donc, moi, je me suis retrouvée en 1939, sans mon père qui a été déporté au goulag et qui est mort, et avec un père qui m'a élevé et qui m'a donné son amour du yiddish à lui. Ma mère en a fait autant, puisqu'elle était écrivain, elle a écrit de beaux romans, de belles nouvelles, et donc c'est par là que, et ce phalanstère dans le yiddish, c'est là que m'est venu cet amour du yiddish, ce besoin finalement du yiddish, parce que on ne fait pas du yiddish pour quelqu'un d'autre, on le fait toujours pour soi. Alors que quand j'ai appris l'anglais, je savais que je le faisais pour moi, mais que je le faisais aussi pour d'autres. Le yiddish, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Je l'apprenais par pur amour et par l'émerveillement que me procurait cette langue.
Donc là, effectivement, je crois qu'il y a... Il y a dans la façon dont vous avez traduit ce livre quelque chose de très émouvant, notamment la manière dont vous avez traité certains passages. Je songe en particulier à celui dans lequel finalement un compagnon de cellule a été fouetté. Il est passé par les verges, et donc le narrateur s'interroge sur sa souffrance intérieure, puisque rien n'en paraît apparemment, et sur ce qu'il peut faire littérairement, poétiquement, de ce dos meurtri, de ce dos massacré. Donc effectivement, page 190-191, les questions sont simples. Que se passe-t-il en Roudun? Comment le comprendre? comment le transformer en poème que je voudrais écrire. Et suit alors toute une réflexion sur la possibilité d'écrire, d'exprimer même cette violence, cette horreur subie par l'autre, la faire sortir de l'autre et non seulement se l'approprier par les mots, mais la transmettre en quelque sorte. Je me demande s'il n'y a pas là aussi une réflexion non seulement sur la poésie, mais sur la traduction telle que vous la concevez apparemment.
Écoutez, c'est d'abord cette espèce d'empathie de Lévick est quelque chose qui marque tout son parcours humain et son parcours littéraire, véritablement. Une empathie totale. En 1936, quand a ouvert le camp de... le camp allemand, le premier camp,
Dachau,
c'est ça, merci. Voilà, quand Dachau était ouvert, il a su, Lévick a su, comme tout le monde l'a su à ce moment-là, les traitements que subissaient les prisonniers, il a écrit un poème sur Dachau. Et à la même période, il y avait une réunion du PEP Club. Donc, et Lévick a pris la parole, et dans ce qu'il dit, il y a aussi cette empathie humaine. Il dit, c'est très bien, nous avons parlé de poésie, c'est absolument formidable, je suis poète, j'adore la poésie, mais est-ce que vous croyez que maintenant il n'y a pas autre chose à faire, il y a à sauver des vies. Et tout du long, Lévick a été considéré comme une sorte de personnage tutélaire de la culture yiddish. Et il avait une sorte d'aura autour de lui, parce que justement, il était à la fois poète, il a une œuvre monumentale, et en même temps, cette espèce d'humanité, cette proximité des hommes.
Et alors, effectivement, à partir de là, il s'interroge sur sa mission. Le poème qu'il va écrire ensuite, un candidat pour Treblinka, que vous citez, qui est un texte magnifique, en quelque sorte, il est sur le seuil. Il est sur le seuil, il n'est pas été à Treblinka, mais je suis sur le seuil, en quelque sorte. Celui qui est sur le seuil, c'est un passeur, en quelque sorte.
C'est un passeur, et c'est surtout quelqu'un qui est très... qui a un humanisme extrêmement profond, extrêmement vécu. Ce n'est pas de la parole, on parle beaucoup d'humanisme, mais lui a véritablement vécu cet humanisme et ce besoin de partager avec les autres hommes ce qui leur arrivait. Et ça, on le trouve à travers toute son œuvre. Et effectivement, il n'est pas étonnant que il consacre un chapitre à cette insulte, en quelque sorte, à cette humiliation, non seulement à la douleur physique, mais à cette humiliation que représente pour un homme d'être fustigé par des gardiens. Et donc, je crois que c'est un personnage très particulier, Lévick, parce qu'il a été considéré comme une sorte de guide moral. Il a non seulement l'aura du poète, mais il a aussi l'aura de l'homme qui sait comment aimer les autres hommes.
Et en même temps, effectivement, c'est un personnage tutélaire, comme vous dites. En quelque sorte, à travers lui, on retrouve des racines. Et on peut refonder peut-être une culture yiddish qui devient aussi une culture essentiellement humaniste, qui sauve l'humanité pratiquement.
En tout cas, beaucoup de personnes, les individus sont divers, hein, qu'ils soient juifs ou qu'ils ne soient pas juifs, ils sont divers. Il y en a qui sont très, très attentifs aux autres, d'autres qui ne le sont pas. Mais Lévique, ce n'est pas étonnant qu'il ait été touché à la fois par la douleur physique que subit son co-prisonnier et par l'humiliation humaine qui l'a bouleversé.
Alors donc, là du coup, en quelque sorte, on est dans, à la fois dans une restauration de l'humanisme et dans sa réactualisation, puisque au tout début, Lévique dit que, en quelque sorte, il s'adresse, il écrit ce livre pour l'homme d'aujourd'hui. Donc c'est un peu aussi ce que vous faites, vous prolongez ce projet en traduisant, traduire un texte, c'est l'actualiser, c'est le rendre présent en quelque sorte, et éternellement présent.
Bah écoutez, j'ai un ami qui m'a mis le doigt sur ce que je faisais. Il a écrit, c'est Philippe Ménard, il a écrit un article qui s'appelle le souci ontologique, qui n'est pas publié encore, mais qui le sera prochainement. Et tout à coup, je me suis rendu compte que toute ma démarche dans le domaine yiddish était une sorte de souci ontologique, c'est-à-dire de couvrir autant de livres que possible, de partager autant que possible, de faire aimer ce que j'aime et d'observer aussi que je fais partie d'un peuple qui est un peuple de diaspora, c'est-à-dire dispersé partout, et cette dispersion est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'anthologie. Et je me suis rendu compte, grâce à cet article de Philippe Ménard, je me suis rendu compte qu'au fond, c'est ça que je faisais.
C'est là que peut-être on arrive à ce texte que vous avez rendu si profond, cette expérience que le narrateur appelle le cachot cosmique. Donc quand il est jeté au cachot, au début un cachot tout à fait obscur, hein, il n'y a rien, un cachot minuscule, puisqu'il peut en toucher les deux parois en écartant les bras. Et alors, j'ai trouvé ce moment, ce personnage, hein, dans cette situation, très allégorique, à la fois du drame que vit la culture yiddish et peut-être de ce que vous essayez de faire, comme Lévique a essayé de le faire de son côté, hein, de bras. Il faut à la fois, en quelque sorte, essayer de ramener à des dimensions mesurables l'espace, le monde, et en même temps, en essayant de ranimer sa mémoire, hein, puisque dans le même temps, il essaye de se souvenir de ce qu'il a vécu, de le réaccorder avec le temps. Donc je me demande si là, vous n'avez pas été aussi forte dans votre traduction que dans la mesure où ça ressemblait à quelque chose que vous vouliez faire vous-même.
Peut-être, enfin je ne me compare pas à Lévique.
Je n'aurais pas cette
prétention. Mais effectivement, je suis dans le partage.
Donc justement, ce texte, on pourrait le lire.
Moi, je n'ai pas prévu, parce que vous n'aviez pas indiqué de texte,
ah bon,
donc je n'ai pas préparé.
Bon, je vais quand même le lire.
Oui, lisez le passage
dans votre superbe traduction.
Parce que moi, je n'ai pas retenu de texte en yiddish, puisqu'il n'y avait pas d'indication.
D'accord. Je connais maintenant la taille de mon cachot et ce qu'il contient. Je commence à faire des allers-retours dans le sens de la longueur, perçant la noirceur de pierre qui m'entoure. Aller-retour, aller-retour. Je pense que cela va me réchauffer, et c'est le cas. J'ai moins froid. je n'éprouve pas de peur. Je ne me sens pas menacé. Si je n'attrape pas froid, je m'en tirerai, me dis-je. Et même si je tombe malade, ça n'a rien de grave. Si j'ai un peu de fièvre. L'essentiel, c'est le temps. Qu'est-ce que je peux faire du temps dans ces ténèbres? Combien dure une minute, une heure dans cette noirceur où il n'y a ni jour ni nuit? Le concept de temps est totalement aboli. Est-ce cela le vide? Non, ce n'est pas le vide. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je voudrais savoir si on est le matin, le midi ou le soir. Il me semble que j'ai été enfermé dans ce cachot depuis peu. C'était l'aube. Maintenant, ce doit donc être le matin. Mais comment savoir combien de temps a duré mon évanouissement? Combien de temps je suis resté allongé au sol avant de me lever? Combien de temps a pris mon exploration du cachot? Des minutes? Des heures? Une journée? Que signifie le non-temps? Dans l'absence du temps, on peut devenir fou, me dis-je. J'essaye de me remémorer les épisodes de ma vie. Ce n'est pas la peine d'aller loin. Il faut juste faire marcher mon cerveau. Je vais tourner ma pensée vers la cellule dont j'ai été éjecté. Je vais penser à mes camarades, les forçats, avec qui je l'ai partagé pendant 3 ans. Mais mon cerveau ne m'obéit pas. Il ne veut penser à rien, ni à personne. Il veut savoir l'heure qu'il est. J'aurais donné n'importe quoi pour savoir depuis combien de temps je me trouve dans ce cachot. Quelle a été la durée de mon évanouissement? De l'interruption de ma conscience entre le moment où j'ai été poussé dans cette tombe et mes allers-retours actuels, mes mains posées sur les murs de part et d'autre. C'est la seule pensée qui m'obsède.
Merci de me l'avoir lu. Alors moi, c'est effectivement, ce chapitre est absolument, à mon sens, un des plus forts du livre. Dans la mesure où il donne littéralement, il fait toucher le lecteur, il fait toucher au lecteur ce que c'est les ténèbres. Il y a un développement, les ténèbres comme si on pouvait les toucher, comme si c'était une matière. Et ça, c'était absolument magnifique. Et puis, bien sûr, toute cette réflexion de sur la malléabilité du temps qui est très intéressante. Et puis, il y a un troisième élément, c'est qu'il se retrouve dans ce cachot minuscule, il se retrouve avec un autre prisonnier qui est un assassin. Et sa première réaction a été évidemment de peur, enfin de comment est-ce que je vais pouvoir cohabiter avec un assassin. Et finalement, cet assassin lui révèle plus ou moins sa vie, et au moment de partir, cet assassin se défait de son manteau et lui dit « Tu restes dans ce cachot où il fait très froid ». Moi, je bougerai, j'aurai moins froid, je te laisse mon manteau. Et donc, cette scène dans le cachot est absolument, à mon sens, sublime, oui, vous avez raison.
Oui, et puis elle fait écho dans le livre à l'une des dernières scènes, quand le vieillard merveilleux lui offre une chemise qui le sauve.
Oui, c'est ça, exactement.
La tempête.
Oui, oui.
Il y avait aussi un texte que j'avais prévu... de lire avec vous, mais qui n'est pas traduit par vous. J'en ai une version dans l'anthologie de la poésie yiddish, donc dans la traduction de Charles Dobzhinsky. Voilà. C'est le poème Quelque part. Mm-hmm. Quelque part au loin. Mm. Quelque part au loin, la terre interdite s'étend. On y voit bleuir des monts argentés, un sol vierge au loin si tentant. En un lieu profond, un vaste trésor nous attend. Un vaste trésor pétri dans la terre, enseveli au fond des temps. Quelque part au loin vit un prisonnier solitaire. Et sur son front, la clarté du soleil descend et s'éteint par mystère. Quelque part au loin, quelqu'un vagabonde. Dans la neige, une ombre se terre, sans pouvoir trouver jamais le chemin interdit qui mène à sa terre.
C'est inspiré évidemment par cette expérience de prisonnier qu'il a eue. Et la deuxième partie de ce débat du tsar s'intitule sur la route de, en route sur la Sibérie ou la route de la Sibérie, je ne sais plus. Et donc effectivement il est complètement marqué par cette expérience de jeunesse, et tout ce qu'on lit de lui, on trouve mille choses, hein, mais on trouve toujours quelque part, comme il dit, on trouve toujours cette présence de l'expérience sibérienne.
Nous vous remercions.
Merci.